Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 28 Aban 1399 du calendrier iranien, 18 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran est prêt à s'engager pleinement dans l'accord nucléaire, mais se méfie du comportement américain, dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La prochaine administration américaine n'aurait d'autre choix que de changer de cap, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. L'Iran est capable de répondre à toute aventure irréfléchie de tout agresseur. Et Washington réduit sa présence militaire en Afghanistan et en Irak. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que la prochaine administration américaine n'aurait d'autre choix que de changer de cap et de revenir au respect des accords internationaux. Le président Rouhani a affirmé que le changement possible de la politique étrangère américaine offrirait une opportunité de lever les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, le vainqueur déclaré par les médias de l'élection présidentielle américaine, a promis de revenir à l'accord nucléaire iranien de 2015. C'est l'accord dont le président sortant, Donald Trump, s'est retiré en 2018 et a imposé des sanctions sévères à l'Iran. M. Rouhani a qualifié l'administration Trump de « hors-la-loi » qui a déclenché une guerre économique contre la République islamique d'Iran. Cependant, il a souligné que Trump n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs via sa soi-disant campagne de pression maximale. Si le président élu américain Joe Biden cherche à revenir au plan global d'action conjoint, il devra respecter les engagements américains dans le cadre de l'accord nucléaire et lever les sanctions, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Dans un entretien au quotidien Iran, Mohammad Javad Zarif a rappelé que le président américain Donald Trump, en retirant les États-Unis de l'accord nucléaire, avait commis une grande erreur. M. Zarif a par ailleurs noté que la politique de retrait de Trump de l'accord nucléaire et la campagne de pression maximale contre la République islamique d'Iran ont abouti à un échec. Pour le patron de la diplomatie iranienne, les États-Unis, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies et membre permanent du Conseil de sécurité, ne peuvent pas dire que la résolution 2231 approuvant l'accord sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran est illégale. L'Iran s'est avéré capable d'utiliser sa puissance militaire légitime pour empêcher ou répondre à toute aventure irréfléchie de tout agresseur, a déclaré Alireza Mir Youssefi, porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York. Il a déclaré à NBC News que le programme nucléaire iranien est purement à des fins pacifiques et civiles et que les politiques de Trump n'ont pas changé cela. Cependant, l'Iran s'est avéré capable d'utiliser sa puissance militaire légitime pour empêcher ou répondre à toute aventure irréfléchie de tout agresseur, a-t-il ajouté. À 2 mois de la fin de son mandat, Donald Trump a sondé de hauts responsables américains sur la possibilité de frapper les installations nucléaires iraniennes, selon le New York Times. Pour obliger les États-Unis à changer son approche anti-iranienne, il faut chercher à renforcer la force intérieure du pays. Sans le renforcement du pouvoir et le progrès économique, qui consiste notre première priorité, un changement dans la politique anti-iranienne des États-Unis n'est pas possible. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée islamique d'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Faisant référence à l'élection présidentielle américaine et à l'approche du président élu des États-Unis envers l'Iran, le chef du Parlement iranien a déclaré « Vous pouvez être sûr que l'approche américaine vis-à-vis de l'Iran ne changera pas avec le changement de président américain. Donc, pour changer l'approche américaine, nous devons agir dans le sens d'un renforcement interne dans le domaine économique », a-t-il ajouté. Les États-Unis vont réduire le nombre de leurs soldats en Afghanistan et en Irak à la mi-janvier 2021. Environ 2000 militaires se seront retirés d'Afghanistan le 15 janvier et 15 autres auront quitté l'Irak pour ne laisser que 2500 soldats dans chaque pays, a annoncé mardi le nouveau ministre américain de la Défense par intérim, Christopher Miller. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O'Brien, a de son côté déclaré que le président Donald Trump espérait que toutes les troupes américaines reviendraient d'Afghanistan et d'Irak d'ici le mois de mai. Le retrait interviendra alors que Donald Trump, qui avait promis en 2016 de mettre un terme définitif aux guerres sans fin des États-Unis, cédera le pouvoir au démocrate Joe Biden 5 jours plus tard. Une délégation du gouvernement bahreïni est arrivée en Israël pour la première visite officielle depuis que les deux parties ont normalisé leurs relations au mois de septembre. La délégation est dirigée par le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Abdel Latif Al-Zayani. Il devrait rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi s'entretenir également avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à la ville de Qods. Al-Zayani doit poursuivre ses travaux sur le mémorandum d'accord signé par Bahreïn et Israël à Manama au mois d'octobre. Ces accords incluent notamment l'ouverture d'ambassades des deux pays. Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient signé en septembre à Washington des accords de normalisation de leurs relations avec le régime israélien, une initiative qualifiée de trahison par les Palestiniens et un coup de poignard dans le dos de la nation palestinienne. Les États-Unis sont de plus en plus exposés à la violence domestique. Des documents internes du gouvernement américain montrent que les États-Unis sont de plus en plus exposés aux menaces et à la violence domestique. Le National Contre-Terrorisme Center, une agence créée pour lutter contre le terrorisme international, a concentré ses efforts sur l'extrémisme de droite et les suprémacistes blancs. L'agence de renseignement, dans son recueil interne de la semaine de l'élection présidentielle, a cité 4 menaces purement internes dans sa liste des 10 principales menaces auxquelles les États-Unis sont confrontés. C'est alors que le président Donald Trump et ses alliés ont blâmé la gauche ces derniers mois pour la violence. L'Arabie saoudite ne doit pas chercher à se dérober de ses responsabilités. En réponse aux remarques anti-iraniennes du ministre saoudien des Affaires étrangères, le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, capitale de l'Autriche, a déclaré « L'Arabie saoudite ne doit pas rejeter sa propre faute sur les autres. » Qasem Gharibabadi a publié un message sur sa page Twitter. Il a écrit « Le bouc émissaire et la propagation de la peur sont deux méthodes courantes et classiques utilisées par les démagogues. Si vous souhaitez poursuivre un programme d'armes nucléaires ou si vous cherchez une excuse pour justifier votre manque de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique ou votre système de sauvegarde obsolète, ayez au moins le courage de l'admettre et d'en payer le prix. Ne blâmez pas les autres pour vos propres fautes », a-t-il écrit. Si le programme nucléaire iranien n'est pas arrêté, l'Arabie saoudite aura le droit de s'équiper d'armes nucléaires. C'est ce qu'avait déclaré Adel Abu Jubeir, ministre saoudien des Affaires étrangères, dans une interview. Depuis quelques années, l'Arabie saoudite développerait une installation nucléaire secrète. Selon le journal New York Times, la CIA examine le programme nucléaire de l'Arabie saoudite et examine si ses activités pourraient ouvrir la voie à Riyad pour acquérir une arme nucléaire. M. Gharibabadi a précédemment demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique de clarifier le programme nucléaire saoudien et de fournir un rapport aux membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran est prêt à s'engager pleinement dans l'accord nucléaire, mais se méfie du comportement américain, dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. S'exprimant dans une interview exclusive avec Press TV, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à revenir à la pleine mise en œuvre de son accord nucléaire avec les grandes puissances, mais se méfiait de la façon dont la prochaine administration américaine allait agir. L'Iran est définitivement prêt, si l'autre partie est prête, à revenir à la pleine mise en œuvre du plan global d'action conjoint, a déclaré mardi Saïd Khatibzadeh. L'administration du président américain, désormais sortant Donald Trump, a abandonné l'accord en 2018 en vertu de sa politique de pression maximale contre la République islamique d'Iran. Washington a ensuite rétabli les sanctions qu'il avait levées une fois devenu membre du plan global d'action conjoint et a également commencé à inciter les autres à s'engager dans les interdictions et à arrêter leur commerce avec la République islamique d'Iran. Cependant, la République islamique d'Iran a adopté des mesures économiques appropriées en vertu d'une directive du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, de l'économie résistance, et a également commencé à prendre des contre-mesures nucléaires pour riposter contre le non-engagement des États-Unis et d'autres membres du plan global d'action conjoint. Les représailles combinées de l'Iran ont à présent incité de nombreux responsables mondiaux, médias et observateurs à identifier ouvertement la campagne américaine comme une campagne avortée. Saïd Khatibzadeh, à son tour, a déclaré que la poussée avait évolué vers un échec maximal pour Washington. La République islamique d'Iran va-t-il faire confiance aux États-Unis? Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que les États-Unis avaient montré à tout le monde qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Le problème n'est pas la confiance. En fait, l'accord nucléaire a été négocié sur la base d'une méfiance mutuelle. Donc, c'est le plus important. Et nous examinons simplement le comportement de qui dirigera la Maison-Blanche, a-t-il déclaré, et a noté qu'il était trop tôt pour dire ce qui allait se passer à l'avenir. Le diplomate iranien, quant à lui, a répondu à l'affirmation de l'administration américaine, boiteuse selon laquelle elle allait construire un mur de sanctions qui, selon certains responsables, aucune administration américaine ne serait en mesure de s'effondrer pour revenir au plan global d'action conjoint et lever les restrictions économiques contre la République islamique d'Iran. Selon leurs propres mots, il ne reste plus rien à sanctionner, a déclaré Khatibzadeh, citant des aveux des responsables américains concernant l'ampleur de la frénésie des sanctions de Washington contre la République islamique d'Iran. Celles-ci font partie de la guerre psychologique contre les Iraniens, a-t-il dit, ajoutant qu'ils ne peuvent rien faire de plus que de continuer cette guerre psychologique contre la nation iranienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les responsables américains sortants faisaient de telles déclarations par frustration et afin de convaincre le monde que leur politique de pression maximale était toujours en vigueur.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la volonté de Téhéran pour lutter contre toute menace qui compromet la paix et la stabilité dans la région est fort présente sur tous les fronts. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de la coopération militaire entre l'Iran et son voisin irakien, d'où la vente d'armes très sophistiquées à l'Irak. Tout cela pour lutter contre le terrorisme. Alors, une délégation de très haut rang s'est rendue à Téhéran cette semaine pour avoir le soutien de Téhéran pour ainsi repousser le terrorisme dans la région. Nous allons voir plus clair avec des invités, des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Le ministre irakien de la Défense en visite à Téhéran a rencontré ce dimanche le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Le représentant du leader de la révolution islamique affirme la volonté ferme de Téhéran de lutter contre toute menace qui compromet la paix entre les deux nations et la sécurité dans la région. L'amiral Ali Shamkhani a fait allusion implicitement à la récente violation de l'espace aérien du pays voisin contre laquelle a durci le ton l'axe de la résistance. D'aucuns spéculent que lors de ses rencontres avec les responsables militaires iraniens, le ministre de la Défense de l'Irak évoquerait l'achat du système iranien Bavar 373, batterie de DCA similaire aux S-400 russes qui est considéré comme étant le système de défense le plus avancé au monde. Lors d'une réunion avec le ministre irakien de la Défense, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a déclaré « La République islamique d'Iran traitera fermement tout élément d'insécurité qui veut perturber la paix des peuples des deux pays ». Selon l'agence de presse Tasnim, le ministre irakien de la Défense, Anad Sadoum, qui s'est rendu à Téhéran samedi, a rencontré dimanche après-midi l'amiral Ali Shamkhani, représentant du leader de la révolution islamique et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Les deux parties ont négocié les questions bilatérales, régionales et internationales. L'amiral Shamkhani a souligné la bonne coopération entre Téhéran et Bagdad en matière de défense et de sécurité, ainsi dans la lutte contre le terrorisme organisé par les États-Unis et leurs alliés dans la région et le soutien indéfectible de la République islamique d'Iran pour reprendre les villes irakiennes aux mains des terroristes Daesh. Selon lui, cette coopération bilatérale garantit la stabilité et la sécurité de la région et doit être améliorée et institutionnalisée à des niveaux stratégiques. Selon le représentant de l'honorable Ayatollah Khamenei, si les États-Unis persistent sur le prolongement de leur présence en Asie de l'Ouest, c'est qu'ils ne réfléchissent qu'à semer les graines de la discorde entre les pays de la région. Il a par ailleurs souligné la nécessité de la vigilance de tous les pays de la région pour faire face à cette conspiration néfaste. L'amiral Shamkhani a qualifié de très importante la protection des frontières de part et d'autre en déclarant que la République islamique d'Iran ferait fi fermement à tout élément d'insécurité qui veut compromettre la paix entre les deux nations. Les hauts représentants américains ont explicitement avoué que leur présence militaire au Moyen-Orient n'a eu pour conséquence que l'instabilité et la perte de ressources vitales dans la région, a indiqué Shamkhani en accueillant la décision du Parlement irakien de retirer les troupes américaines d'Irak. Le rétablissement de la paix dans la région ne sera possible qu'avec le retrait complet des troupes américaines, a renchéri l'ancien ministre de la Défense. Pour sa part, le ministre irakien de la Défense, Anad Sadoum, a salué samedi le soutien tous azimuts de la République islamique d'Iran à repousser le terrorisme en Irak et de souligner la nécessité de renforcer et d'étendre les relations Iran-Irak, en particulier dans les domaines militaires et sécuritaires. Le général Sadoum a précisé qu'aucun pays tiers ne pourrait affecter les relations entre les deux pays et de souligner l'expérience des deux pays dans la lutte contre le groupuscule de Daesh a montré que grâce à une coopération conjointe, les crises peuvent être dissipées et des opportunités appropriées de coopération dans d'autres domaines peuvent être créées pour le bien-être de la paix des deux nations. Samedi 14 novembre, le ministre irakien de la Défense, Anad Sadoum, est venu en Iran sur l'invitation officielle de son homologue iranien, le général de brigade Amir Hotami, à la tête d'une délégation de haut niveau de commandants militaires.
Alors voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat et nous parlons de la coopération particulièrement militaire entre l'Iran et l'Irak que les États-Unis voient d'un très mauvais œil. Alors à présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités en commençant par Mme Aïser Midani, experte franco-syrienne depuis Paris. Mme Midani, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à votre invité et à tous les auditeurs.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs et à Mme Midani en particulier.
Bien, nous espérons que nous aurons un bon débat. Ma première question va s'adresser à Mme Midani depuis Paris. Alors, Mme Midani, dans ce reportage, on a vu cette coopération dans différents domaines, mais particulièrement militaire entre l'Iran et l'Irak, la vente d'armes très sophistiquées. Qui vont être vendus à l'Irak, qui va venir en aide de repousser le terrorisme de la région et surtout de l'Irak. Mais les États-Unis voient d'un très mauvais œil cette coopération. Qu'en pensez-vous?
En effet, les États-Unis voient de très mauvais œil toute coopération dans la région entre les pays de l'axe de la résistance, je dirais. Et puis, je dirais aussi, c'est une excellente chose, en fait, qu'il y ait une coopération entre l'Irak et l'Iran. Nous avons vu récemment que, de toute façon, après l'assassinat, le vil assassinat, le double assassinat du général Soleimani et du commandant général aussi, Abu Mahdi al-Mohandes, en Irak, ça a été une très grave violation de la souveraineté irakienne et iranienne, en fait, qui a été faite par les États-Unis, qui a généré et qui a fait, en fait, par la suite, que l'ensemble des pays de la région ont décidé, effectivement, que les Américains doivent être dehors, complètement bannis de cette région de l'ouest de l'Asie. Donc, en fait, à partir de ce moment-là et avec les différents changements, je dirais aussi en Irak, mais ceci n'a été que renforcer cette décision d'en finir avec la présence américaine dans la région, qui, de fait, provoque l'insécurité dans la région, qui soutient le terrorisme alors qu'ils prétendent être là pour lutter contre les terroristes. Mais on a bien vu que systématiquement les Américains courent à la recherche, à la rescousse des terroristes à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Les terroristes de Daesh et comme les terroristes de Nusra, mais actuellement aussi les terroristes aussi bien en Irak qu'en Syrie, je dirais, et aussi dernièrement les terroristes de Qassab.
D'accord.
En fait, ces forces qui ont un nom comme ça, forces démocratiques syriennes, mais qui n'ont rien de démocratique et rien de syrien, qui sont souvent d'ailleurs les terroristes eux-mêmes et qui agressent la population, qui violent les domiciles des populations,
tout à fait,
qui brûlent leur, oui, leur récolte, etc. Donc en
d'accord,
fait,
oui,
là, il est important de voir que cette résistance qui démarre et qui monte de plus en plus, de manière de plus en plus importante contre les Américains, elle trouve bien son écho chez les gouvernements, y compris le gouvernement irakien actuel,
oui,
qui essaye donc de se procurer les moyens de lutter contre ces terroristes.
Absolument. Monsieur Pierre d'Ortiguier, depuis Toulouse, est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Midani quand elle parle certains pays qui s'ingèrent et qui sont présents dans la région et qui prétendent de lutter contre le terrorisme, mais donc cette coopération entre l'Irak et l'Iran militairement ne va pas aider donc ces pays-là pour continuer leur présence pour nourrir le terrorisme dans la région. Qu'en pensez-vous?
Oui, en effet, nous félicitons Madame Midani ici de pouvoir nous livrer ce tableau tout à fait exact. Car les puissances qu'on appelle occidentales, donc, on prenne le terrorisme comme argument d'intervention, mais c'est aussi un outil d'intervention pour elles, voyez-vous. C'est-à-dire, par là même, elles prennent comme un prétexte, mais également, je veux dire, un outil, un instrument. Tout ceci a déjà été prouvé, tout ceci est connu, et je crois que la seule réaction, en effet, était qu'il y ait une cicatrisation de tous les des relations, des blessures qu'il y avait entre l'Irak et l'Iran, que nous avons nous-mêmes connues. Et je dois dire que cela est un très grand bénéfice pour les deux pays, également pour toute la région de cette Asie occidentale. Et il faut dire aussi que un des éléments, disons, qui permet de favoriser cette réconciliation, cette coopération disons qui définit objectivement le lutte contre le terrorisme comme sa raison d'être, trouve peut-être aussi son appui dans les tergiversations en Occident et aux États-Unis entre plusieurs groupes. Même Monsieur Trump, par exemple, qui a revendiqué l'assassinat du général martyr et ensuite de l'homologue irakien, lui-même, disons, semble pouvoir se retirer, disons, de ce secteur et critiquer, nous l'oublions jamais, et critiquer par des forces encore plus terribles, non pas seulement aux États-Unis, mais chez nous-mêmes, voyez-vous, car beaucoup de forces nocives veulent se maintenir en Irak en particulier, sous le prétexte de lutter contre le terrorisme. C'est une hypocrisie sans nom, vous voyez, mais c'est une, on pourrait dire que c'est une sorte de cynisme, voyez-vous, en matière politique, mais c'est un cynisme qui a fait ses preuves. Nos auditeurs savent très bien ce qu'a dit autrefois M. Fabius quand il a parlé de. Quand il a parlé d'Al-Nosra qui faisait un bon boulot, tout ceci. En tout cas, je dois dire que cette coopération est fondée aussi sur le succès technologique de l'Iran en matière d'armement. Et je crois que c'est une page qui est définitivement tournée, à notre avis, entre l'Irak et l'Irak et l'Iran, cette guerre terrible qui n'a profité finalement qu'aux puissances étrangères et entités sionistes. Nous espérons que ceci est définitivement surmonté et nous le saluons vraiment comme un grand événement.
Tout à fait. Madame Midani, donc cette coopération militaire entre l'Iran et l'Irak, ça ne va pas profiter à ces pays-là, comme a dit M. Dortiguier, mais tout de même, avec la présence encore des troupes américaines dans la région, selon les responsables iraniens, que tant que les troupes américaines sont dans la région, l'instabilité, l'insécurité, et la continuité du terrorisme dans la région va poursuivre.
Absolument. De toute façon, on a bien vu qu'à chaque fois que les terroristes étaient en difficulté, ce sont les forces américaines qui courent à leur rescousse, aussi bien à Deir ez-Zor, à Mayadin, à Al-Anbar, dans toutes les parties en fait qui étaient truffées de terroristes de Daesh, en fait aussi bien en Syrie qu'en Irak. Et en fait, à chaque fois aussi, les Américains reviennent et puis disent on est là pour combattre le terrorisme. Et puis à chaque fois qu'ils sont décidés à partir et ils essuient des coups, ils réactivent Daesh et ils réactivent les terroristes. Je voudrais aussi parler de leur base Al-Tanf, en fait, qui est aussi dans le sud de la Syrie, à côté de laquelle il y a le camp de réfugiés Al-Rukban, qui est dominé par 7000 terroristes. Et depuis longtemps, les Syriens avec les Russes, en fait, un comité syrien et russe qui essaye de convaincre les Américains de laisser sortir ces réfugiés qui sont dans des conditions absolument déplorables, inhumaines, dans le froid, dans la chaleur, etc. Et en plus, ils sont dominés par les terroristes. On essaye de faire des passages humanitaires pour qu'ils sortent. Et les Américains, non seulement les empêchent de sortir, mais les Américains aussi empêche les aides humanitaires de leur parvenir, de manière à les garder sous la domination des terroristes et puis comme une base, un vivier de recrutement terroriste. Ces terroristes sont systématiquement aussi recrutés dans la base américaine Al-Tanf, qui est sur les frontières américano-jordaniennes syriennes, et qui coupe le chemin, effectivement, entre la Syrie et l'Irak. Je voudrais ajouter aussi, à chaque fois qu'il y a eu une ouverture des passages aussi entre la Syrie et l'Irak, le passage Al-Qayyim qui était et Abu Kamal, et à chaque fois qu'il est ouvert, il y a des représailles américaines, soit direct au niveau militaire par des drones et par des des avions, soit aussi par leurs soldats sur le, dans le secteur, soit par leur cinquième colonne qui sont insérés dans la population, qui font des grèves, etc., pour mettre en difficulté le gouvernement irakien et l'État irakien qui a décidé cette ouverture. Donc en fait, les Américains, il est clair, non seulement ils ne veulent pas qu'il y ait la paix dans la région, mais ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un minimum de prospérité et un minimum d'autonomie sur le plan alimentaire et une complémentarité qui est réelle au niveau de l'ensemble des économies. Donc en fait, c'est clair que les Américains sont systématiquement à l'offensive, à l'agression, et en fait, cette possibilité de se défendre réellement et d'imposer la souveraineté des deux pays, je dirais même des trois pays et des quatre pays de l'axe de la résistance, en fait, qui sont dans la région, ça déplaît très profondément aux Américains, et en fait, ils essayent de faire pression systématiquement. Voilà. Je voudrais aussi, excusez-moi, juste ajouter quelque chose.
Oui.
En fait, la course que Trump avait et les pressions qu'il avait exercées sur les pays de l'autre rive du Golfe, en fait, sur Bahreïn, sur les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, etc., pour faire des alliances avec Israël, se dépêchant avant de terminer son mandat, en fait, montre aussi que de leur côté, il n'y a pas du tout de volonté ni de paix, ni rien du tout, mais au contraire, attiser les contradictions et les menaces contre l'axe de la résistance, contre l'Iran, contre l'Irak et contre la Syrie et le Liban. Donc, en fait, ajouter aussi que je voudrais quand même faire remarquer l'ensemble des pressions que subit l'État libanais. Et depuis l'explosion du port, en fait, dont la responsabilité, je dirais, elle montre clairement les marques sionistes et américaines, mais les pressions exercées par l'ambassadrice américaine qui outrepasse complètement ses droits et son rôle pour faire pression, pour écarter la résistance libanaise, aussi bien d'une composition au niveau du gouvernement, mais surtout en visant aussi de désarmer la résistance libanaise, chose qui n'aura certainement pas lieu. Et tout renforcement, effectivement, de l'axe de la résistance gêne beaucoup et dérange les Américains, non pas pour eux-mêmes directement, mais c'est aussi pour la défense de l'État d'Israël, qui est leur État protégé, qui est en fait leur avant-poste avancé dans la région.
Absolument. Monsieur d'Ortiguier, donc Madame Midani a vraiment développé de façon très exacte la situation. J'aimerais que vous livriez votre analyse sur la question.
Eh bien, tout ce que nous pouvons dire, c'est envisager maintenant si l'avenir de cette position américaine sera-t-elle tenable. Il semble que le seul obstacle réel est un obstacle naturel, celui auquel elle aura affaire, c'est-à-dire, peut-on dire, la réunification des liens, la reprise des liens, si je puis dire, entre la Syrie, l'Irak et l'Iran. Ceci avait été autrefois, bien sûr, avant la guerre de 1914, beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Ce sont les deux guerres mondiales qui finalement ont brisé, si je puis dire, l'unité organique vivante du Proche-Orient. Et aujourd'hui, je crois que la nature, si je puis dire, reprend ses droits à travers les souffrances inimaginables que Mme Mitani a bien décrites, en particulier dans les camps de réfugiés, dans le camp de réfugiés du sud de la Syrie. Je crois que, si je puis dire, la force détruit, la force naturelle, voilà, détruit un droit artificiel. Ce droit artificiel, c'est celui de s'immiscer dans les affaires intérieures, par exemple, du Liban sous prétexte de refaire, de revigorer l'esprit du mandataire qu'il y avait autrefois, de considérer l'Iran non pas ce qu'il qu'il est, mais à travers les caricatures que l'on en donne, voyez-vous. Et je crois que là-dessus, disons, nous assistons à une victoire du réel sur, disons, les stratagèmes diaboliques. Et ceci est une affaire, bien sûr, d'observation, c'est une affaire de foi également, et nous ne pouvons que, à travers toutes ces souffrances, que féliciter, disons, la maturité des chefs d'État, en particulier en Irak et en Iran, qui comprennent, disons, ce qui les unit et non pas ce qui les sépare.
Monsieur Dartiguier,
finalement, s'ils se séparent, ils sont destinés à être, les uns après les autres, écrasés, disons, ou réduits, disons, à une sorte de protectorat américain, ou appelez-le comme vous voulez, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mondialisme. C'est là, je crois, une excellente leçon donnée non seulement à l'Asie, mais également au monde.
Monsieur Dartiguier, tout à l'heure, vous avez évoqué le succès technologique de la République islamique d'Iran dans différents domaines, et cette fois avec, bon, les États-Unis sont connus pour leurs mauvaises promesses quant aux armements et la technologie. Et là, oui, cette fois, l'Irak a décidé donc de se tourner vers l'Iran pour fournir, pour se nourrir d'armes très sophistiquées, justement, pour faire face donc à la grande armée du terrorisme nourrie par les États-Unis.
Oui, justement, dans votre presse télévisée, vous avez bien marqué, par exemple, les déceptions que les Irakiens avaient eues, par exemple, par l'usage des F-16, voyez-vous, qui leur avait été fourni par les Américains. Il est certain que les Américains, ces forces-là qui livrent des armes, ne cherchent pas véritablement à fortifier le pays, mais justement par des moyens souvent même mesquins, à être toujours, disons, nécessaire au pays, c'est-à-dire à s'imposer politiquement à travers une aide soi-disant efficace contre le terrorisme. Je crois que c'est cela que cette leçon que nous recevons. Et j'ajouterai, je vous remercie, monsieur, j'ajouterai sur cette question importante, en effet, de la technologie iranienne, que celle-ci s'est développée, c'est tout à fait aussi une loi naturelle, elle s'est développée aussi à cause du blocus qui a été imposé à l'Iran. C'est-à-dire que si je puis dire, c'est dans son intériorité, dans ses ressources personnelles, voyez-vous, que l'Iran a trouvé la force même d'aller peut-être au-delà de ce vers quoi il serait allé
Absolument.
Dans un temps normal.
Tout à fait. Pierre Dartiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Aïssar Midani, franco-syrien, expert des questions internationales, d'avoir apporté des précisions à l'émission Le Débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Sous Biden, les États-Unis feront adieu à la guerre. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur le mandat Biden à la tête de la Maison-Blanche, ici au Moyen-Orient, surtout du fait d'une campagne médiatique intense qui veut faire de Trump le méga-loup et de Biden le brebis à arracher des compromis avec tout le monde. Mais l'Amérique de Biden va-t-il passer l'éponge sur le bellicisme? Joe Biden a rendu public la composition de son équipe de transition. Au moins un tiers de ses collaborateurs de Joe Biden provient du complexe militaro-industriel, en premier lieu de trois think tanks, le Center for Strategic and International Studies, CSIS, le Center for New American Security, CNAS, et la RAND est de quatre sociétés, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman et Lockheed Martin. Mais quelles sont les lignes du programme de politique étrangère que Joe Biden mettra en œuvre quand il sera installé à la Maison-Blanche? Il l'a préannoncé dans un article détaillé sur la revue Foreign Affairs, mars-avril 2020, qui a constitué la base de la plateforme 2020, approuvée en août par le Parti démocrate. Le titre déjà est éloquent. Pourquoi l'Amérique doit à nouveau guider le monde et pourquoi Biden doit sauver la politique étrangère américaine après Trump? Joe Biden synthétise ainsi son programme de politique étrangère. Tandis que le président Trump a diminué, affaibli et abandonné alliés et partenaires et abdiqué du leadership américain, comme président, j'accomplirai immédiatement des actes pour renouveler les alliances des États-Unis et faire en sorte que l'Amérique conduise encore une fois le monde. Le premier acte sera de renforcer l'OTAN, qui est le cœur même de la sécurité nationale des États-Unis. Pour cela, Biden fera les investissements nécessaires pour que les États-Unis conservent la plus puissante force militaire du monde et en même temps, il fera en sorte que nos alliés OTAN accroissent leurs dépenses pour la défense, selon les engagements déjà pris par l'administration Obama-Biden. Le deuxième acte sera de convoquer, dans sa première année de présidence, un sommet mondial pour la démocratie. Y participeront les nations du monde libre et les organisations de la société civile du monde entier qui sont au premier rang dans la défense de la démocratie. Le sommet décidera une action collective contre les menaces mondiales. Avant tout, pour contrecarrer l'agression russe en gardant le tranchant des capacités de l'Alliance et en imposant à la Russie des coups réels quant à ses violations des normes internationales, et simultanément pour construire un front uni contre les actions offensives et les violations des droits humains de la part de la Chine qui est en train d'étendre sa portée mondiale, selon cette action. Comme le monde ne s'organise pas tout seul, souligne Biden, les États-Unis doivent de nouveau jouer le rôle de guide dans l'écriture des règles comme ils l'ont fait pendant 70 ans sous les présidents aussi bien démocrates que républicains jusqu'à ce que Trump n'arrive. Voilà les lignes de base du programme de politique étrangère que l'administration Biden s'engage à opérer. Le programme de politique étrangère que l'administration Biden s'engage à opérer, élaboré avec la participation de plus de 2000 conseillers en politique étrangère et sécurité nationale, organisé en 20 groupes de travail, n'est pas seulement le programme de Biden et du Parti démocrate. Il est en réalité l'expression d'un parti transversal dont l'existence est démontrée par le fait que les décisions fondamentales de politique étrangère, avant tout celles relatives aux guerres, sont prises aux États-Unis sur une base bipartisane. Ceci est confirmé par le fait que plus de 130 hauts fonctionnaires républicains à la retraite et comme en service ont publié le 20 août une déclaration de vote contre le républicain Trump et en faveur du démocrate Biden. Parmi ceux-ci, John Negroponte, nommé par le président George W. Bush en 2004-2007, d'abord ambassadeur en Irak, avec mission de réprimer la résistance, puis directeur des services secrets américains. Confirmé aussi par le fait que le démocrate Biden, à l'époque président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, soutint en 2001 la décision du président républicain Bush d'attaquer et envahir l'Afghanistan et en 2002 présenta une résolution bipartisane de 77 sénateurs qui autorisait le président Bush à attaquer et envahir l'Irak en l'accusant, accusation révélée fausse ensuite, de posséder des armes de destruction de masse. Toujours pendant l'administration Bush, quand les forces états-uniennes n'arrivaient pas à contrôler l'Irak occupé, Joe Biden faisait passer au Sénat en 2007 un plan sur la décentralisation de l'Irak en trois régions autonomes, kurdes, sunnites et chiites. Autrement dit, le démembrement du pays pour servir la stratégie américaine. De la même manière, quand Joe Biden a été pendant deux mandats vice-président de l'administration Obama, les républicains ont soutenu les décisions démocrates sur la guerre contre la Libye, l'opération en Syrie et la nouvelle confrontation avec la Russie. Le parti transversal, qui n'apparaît pas dans les urnes, continue à travailler pour que l'Amérique, encore une fois, guide le monde.
Thank you.